Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons dans le cadre de ce cycle d'émissions sur notre bien commun et nous abordons pour une quatrième émission la dignité de la personne humaine. Précédemment, nous avons, dans une première émission, défini ce qu'on pouvait considérer comme étant la dignité humaine, conférée donc dans la vision de l'Église catholique à l'homme par Dieu, qui a créé l'homme à son image. Dans une deuxième émission, nous avons vu les implications, c'est-à-dire la position de l'Église sur tous les fronts de la défense de la dignité de la personne humaine, et notamment à travers sa pensée sociale, puis à travers dans le cadre des débats actuels sur la révision des lois de bioéthique. Nous n'avons pas achevé ce tour d'horizon sur la position de l'Église dans la défense de la dignité, et nous allons essayer d'aborder aujourd'hui l'intervention de l'Église donc dans la révision de ces lois de bioéthique, toujours, puis sur l'émigration, qui est un problème actuel récurrent. Ensuite, on va essayer d'aborder la position de l'Église sur les ventes d'armes, et enfin, sur les milieux où la dignité est mise à mal, c'est-à-dire les milieux carcéraux et hospitaliers. Alors, nous en étions dans la dernière émission, Monseigneur Camiade, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Sur la position que les catholiques peuvent prendre dans les débats actuels sur la bioéthique. Donc ces catholiques vont être amenés individuellement à participer à des débats, bien sûr, peut-être même à des manifestations, sûrement même, en tout cas à des prises de position. Alors certains évêques prônent d'éviter deux écueils, le défaitisme et la croisade. D'autres incitent de toute façon à éviter un affrontement qui laisserait des traces indélébiles. Quel est votre sentiment, Monseigneur ?
Il est sûr qu'on connaît depuis longtemps, enfin, on croit connaître la position de l'Église, qui généralement est perçue comme plutôt restrictive dans tous les domaines de la bioéthique, notamment. Forcément, les catholiques qui ont réfléchi aux enjeux, et on l'a un petit peu évoqué dans la précédente émission, se trouvent mal à l'aise par rapport aux options générales prises dans la société. Et même si parmi les catholiques, certains essayent de penser aussi un peu différemment, mais on voit que c'est quand même très difficile de tenir cette dimension sacrée de la vie, de la personne humaine, de la dignité de tout être humain, depuis l'embryon jusqu'à la fin, à la mort naturelle. Donc on est dans une position difficile. Voilà. Et effectivement, je pense que la notion de croisade dans ces domaines-là n'est pas forcément la bonne. Je pense que dans notre société n'est pas apte à entendre un discours violent, un discours arrogant. Même si nous avons réfléchi, si nous avons une anthropologie, si nous avons des raisons profondes de penser la dignité de la personne humaine telle que nous la pensons et de la défendre, nous sommes aussi en minorité, nous ne sommes pas en position de la défendre par la dignité de la personne humaine, de la défendre par la force. Nous ne pouvons y parvenir que par la conviction et par une conviction paisible dans laquelle nous montrons aussi notre... Je pense qu'il y a, je l'évoquais dans l'émission précédente, il y a une très grande importance dans notre culture de la dimension compassionnelle. Et c'est la compassion qui est valorisée dans notre culture. Alors, elle est parfois instrumentalisée par des motivations un peu inavouables de type économique, et on stimule la compassion en réalité sur des faux terrains. Mais nous ne pouvons pas non plus être insensibles à cette dimension compassionnelle. Par exemple, si les catholiques donnent l'impression d'être totalement indifférents à la souffrance des personnes homosexuelles, d'être indifférente au, voilà, au désir d'enfant des personnes qui n'arrivent pas à en avoir, d'être indifférent à voilà, un certain nombre de problèmes liés à la fin de vie, à des grandes souffrances, à la fin de l'existence. Si nous semblons, à travers des affirmations dures et définitive, être totalement indifférent à ces souffrances-là, nous ne sommes pas non plus dans un discours fidèle à la parole du Christ, que l'on voit dans l'Évangile, toujours attentif aux personnes souffrantes, d'abord. Mais être attentif aux personnes souffrantes, c'est pas non plus leur dire « vous avez raison ». Par exemple, on peut citer l'épisode évangélique du paralytique qu'on descend à Jésus sur un brancard dans la maison de Capharnaüm. Il est amené par des hommes et tout le monde veut que Jésus le guérisse. Voilà, Jésus est compatissant, il a guéri des malades et on apporte un paralytique à Jésus. Et Jésus ne guérit pas le paralytique, il lui dit « tes péchés te sont pardonnés ». Et à la grande surprise de tout le monde. Voilà. Ensuite, il va le guérir. Mais à travers cette priorité liée à la conversion des péchés, au pardon des péchés, ça fait partie aussi de notre message évangélique. Jésus n'est pas sans pitié pour cet homme. Au contraire, il veut lui pardonner les péchés. Ça implique aussi un chemin de conversion. Et c'est cet appel à la conversion que nous avons apporté. Voilà. Alors, la croisade, c'est pas notre époque. ça a peut-être d'ailleurs jamais été un succès dans l'histoire de l'Église. Quand on a voulu faire des croisades, en général, on est allé plutôt à la catastrophe. Mais par contre, l'appel à la conversion. L'appel à la conversion. À l'intérieur d'un regard de compassion. Voilà.
La compassion sans faiblesse.
Oui, et puis sans dire que parce que vous souffrez, vous êtes parfait. Et vous souffrez, bon, mais ça n'empêche qu'il y a quand même une conversion à vivre. Il y a une autre manière de regarder la vie. Et c'est ce chemin de conversion que nous devons essayer de soutenir, d'accompagner. Et notre société a vraiment besoin d'un appel à la conversion, parce que je crois profondément, finalement, que les préoccupations égoïstes, économiques, dans un sens étroit, sont très prégnantes, et notre façon de penser est influencée par notre désir de tranquillité immédiate à moindre frais. Pour donner un exemple, toujours la question de, si on prend simplement la difficulté liée à la venue d'un enfant pour une femme seule qui se trouve isolée, etc., la société dit ben, elle n'a qu'à avorter. Et ça ne coûte rien à la société. Si la société dit ben, cette femme en difficulté, nous allons l'aider à donner naissance à cet enfant et l'accompagner, lui permettre d'avoir des conditions de vie correctes pour cet enfant, ça demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'accompagnement. Et je trouve que d'ailleurs, même nous les catholiques, nous ne proposons pas assez de choses pour le soutien des femmes en difficulté. Évidemment, c'est beaucoup plus exigeant. Ça demande une conversion de tout l'entourage, de toute la société, qui est plus exigeante que simplement de dire, on règle le problème. Alors, ce qui ne règle rien d'ailleurs, parce que la femme en réalité va porter ce souvenir douloureux tout au long de sa vie, et on n'est pas très responsable en réalité par rapport à ça.
Ça demande du courage, effectivement, de ne pas forcément s'encombrer non plus de conventions. Je pense, vous parliez du Christ et de l'exemple du Christ, je pensais aussi aux lépreux, où le Christ va guérir le lépreux au-delà, en dépassant les conventions qui étaient pour les Juifs de ne pas toucher aux lépreux. Mais ça exige aussi une compétence quand même pour intervenir de la part des chrétiens. Oui. Et ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être aider les chrétiens par une réflexion, alors qui pourrait être philosophique, théologique, mais aussi technique, avec peut-être des experts. Je ne sais pas ce que la conférence des évêques, je pense que vous allez en parler prochainement à Lourdes, va préconiser sur ce point, mais il me semble qu'il faudrait prévoir peut-être des formations techniques sur ces points, accompagnement pour que les chrétiens puissent aller vers les personnes en souffrance avec ce que vous disiez, c'est-à-dire la compassion, la bienveillance, et non pas la croisade, bien sûr. On est tous d'accord là-dessus, je crois. Et aussi cet appel à la conversion. Mais ça nécessite une compétence.
Absolument, oui, oui. Et ça demande une formation, que les chrétiens se forment. Alors, en même temps, vous savez, c'est pas le début, hein. Il y a déjà eu beaucoup de choses de faites, et les chrétiens, un certain nombre d'entre eux, déjà, ont pu se documenter. Il existe de très bons ouvrages de formation, de réflexion, des textes. Un service donc sous la direction de Mgr Dornelas qui a proposé des réflexions sur un certain nombre de sujets. Il y a dans la conférence des évêques, il y a quand même beaucoup d'éléments pour se former. Et ça demande évidemment à chaque fois un effort personnel. Il ne suffit pas que les évêques proposent des choses. Les textes, les enseignements, il y en a pléthore. Après, il faut les travailler. Il faut
porter la connaissance des gens aussi. Parce que les personnes ne savent pas forcément qu'il y a ces ouvrages. Existe, oui.
Je vois qu'il y a quand même plusieurs revues religieuses, des magazines comme Famille Chrétienne ou Dans la Croix, où il y a des articles de fond qui donnent un certain nombre de repères.
Tous ne sont pas abonnés à Famille Chrétienne,
bien sûr,
et puis, à La Croix.
Non, tout à fait.
Sur le site du diocèse, il y a des informations là, sur...
Oui, il y a un certain nombre de liens qui permettent
On peut inviter
de trouver sur le site de la Conférence des évêques de France aussi.
Aller sur le site de la Conférence de France ou sur le site
du diocèse, oui.
Du diocèse, s'ils ont des moyens informatiques. Voilà, certains théologiens, pour essayer de conclure sur cette question de ce débat de bioéthique actuellement, certains théologiens catholiques, ai-je lu, invitent à la fois les états généraux, et c'est-à-dire le Conseil national d'éthique, et lorsqu'il y aura des débats parlementaires sur les questions bioéthiques, le gouvernement et le Parlement à prendre un peu plus d'altitude par rapport à ces questions de bioéthique et à repenser ou à réfléchir en tout cas à un projet plus global de société redéfinissant ou au moins clarifiant un certain nombre de points fondamentaux, par exemple la valeur qu'on veut accorder à l'être humain, de son commencement à sa fin, les solidarités qu'il serait possible de mobiliser pour mieux accompagner notamment la vieillesse et la fin de vie, les priorités de financement, parce qu'on sait bien que tout est priorité de financement. On voit aujourd'hui par exemple que pour les hôpitaux et les EHPAD, on manque de financement, donc ça veut dire qu'on n'a pas considéré que c'était une priorité. Si ça manque de financement, c'est que quelque part, le gouvernement n'a pas considéré que c'était une priorité. Et puis la fraternité. Alors ça figure dans notre devise républicaine et dans les lois de bioéthique actuellement. On parle technique médicale, mais pas beaucoup fraternité. Voilà. Donc qu'en pensez-vous, Monseigneur, sur cette proposition de certains théologiens catholiques ou chrétiens, en tout cas, qui disent il faut repenser tout ça, mais le repenser à un niveau gouvernemental, parlementaire et Conseil national d'éthique.
Oui, j'ai employé le mot peut-être traditionnel de conversion, mais c'est bien là une conversion à vivre, conversion sociale, sociétale, mais peut-être sociale, parce qu'effectivement, les enjeux politiques, les enjeux d'une vision de l'homme telle qu'elle est promue par les choix politiques, les choix économiques aussi concrets, bien sont là, quoi. C'est effectivement quelle société, quel homme voulons-nous, comment respectons-nous, et oui, il y a cet enjeu, et je pense que cette réflexion de fond, elle est très juste, parce que on voit bien que le poids sur les questions éthiques, bioéthiques, dépasse largement les questions morales. C'est toute une lame de fond qui existe aujourd'hui et qui influe sur la manière de vivre ensemble à partir de choix qui sont déjà posés, dont on sent bien qu'ils sont dans la promotion d'une économie toujours plus forte, mais impersonnelle et oublieuse de ce qu'est la nature humaine.
Dans la précédente émission, nous parlions du dicastère que le pape François avait mis en place. Il me semble qu'on va dans ce sens-là avec lui, où il invite dans ce dicastère à reprendre...
À une réflexion globale.
À une réflexion globale, parce qu'on ne peut pas réfléchir sur des questions isolées de PMA, de GPA ou de fin de vie, si on ne replace pas l'homme véritablement au centre. C'est aussi l'option qui a été prise par le bien commun de dire tout doit converger vers la reconnaissance de la nature humaine et de sa dignité et non pas l'inverse.
Tout à fait.
Or, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a inversé un peu les choses.
C'est-à-dire, on est dans une logique ultra-libérale sur le plan économique et on a l'air de faire comme si le sociétal était plus humain, était la manière d'être humaine, alors qu'en réalité, c'est aussi de l'ultra-libéralisme, mais instrumentalisé idéologiquement, pour dire on va vous libérer par des choix sociétaux qui vont vous donner plus de liberté individuelle, mais qui en réalité détruisent le vivre ensemble humain. Et donc,
ce ne sont que des techniques.
Ce sont des techniques dans lesquelles, en fait, on devient, en tous les domaines, des consommateurs. Et on est dans une logique ultralibérale. Donc il faut arriver à convertir la pensée de la société tout entière.
Voilà, donc pour ce qui est de la bioéthique, alors j'avais aussi l'intention d'aborder les questions sur les migrations, les ventes d'armes et la dignité dans les milieux où elle est atteinte, c'est-à-dire carcéraux et hospitaliers. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir. Sur les migrations, Monseigneur, cette question, on le sait, divise aussi les catholiques. On connaît la position du pape, c'est d'ouvrir, d'accueillir inconditionnellement. Alors il a un peu modéré sa position, mais il nous invite quand même à ouvrir largement les bras aux migrants, à tous les étrangers d'ailleurs, sans distinction, en ouvrant les frontières, tout en aidant bien sûr les pays d'où viennent les migrants à se développer et à essayer de fixer ces populations dans les pays d'origine. Cette position du pape, Monseigneur, est-elle tenable ?
Alors, en fait, je pense que fondamentalement, elle est aussi dans la même logique que celle que nous venons de réfléchir, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine, de toute personne humaine, quelle qu'elle soit, y compris le migrant qui est là à côté de nous. Accueillir tous les migrants qui sont là chez nous, c'est du pragmatisme. Ce n'est pas une idéologie. L'ouverture des frontières, je ne sais pas, c'est peut-être une autre, ça peut être un sujet de débat, mais n'avoir aucun contrôle aux frontières, je ne sais pas si c'est la bonne attitude. Je pense que la sécurité des États nécessite certaines formes de contrôle. La présence de frontières ne veut pas non plus dire, parce qu'il y a une frontière, il n'y a pas de passage. La peau est la frontière de notre corps et sur la peau, il se fait sans cesse des va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a des sécrétions de toutes sortes de substances, il y a de l'eau, de l'humidité, de l'air, tout passe par la peau, mais la peau filtre. Voilà, il y a un certain contrôle et je pense que tout corps laisse passer, voilà. Et c'est vital, sinon nous mourrions. Voilà, si notre corps était toujours hermétique, voilà. Et sans communication avec l'extérieur, nous serions morts, et même sans relation avec les autres êtres humains. Et donc, à l'échelle des pays, des nations, il faut trouver cette même manière d'être, que chaque pays soit lui-même, mais soit sans cesse en communication et en interaction avec les autres. Voilà, les migrations ont toujours fait partie de la vie des sociétés, et aujourd'hui, s'il y a un grand mouvement migratoire, disons globalement des pays pauvres vers des pays plus riches, C'est bien parce qu'il y a des déséquilibres mondiaux, c'est parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des problèmes climatiques, et que en fait c'est toujours ce problème global de l'humanité, de la société, de l'avenir du monde, de l'environnement, où si on veut faire un humanisme intégral, on est obligé de prendre en compte et accueillir les migrants, c'est aussi assumer le fait que nous n'avons pas forcément un rapport équitable avec le reste du monde. Nous utilisons bien un certain nombre de ressources venant de par exemple d'Afrique ou d'autres pays du monde, des ressources énergétiques par exemple. Ça nous permet de vivre, ça nous enrichit depuis des années. Voilà, et les personnes qui vivent là n'en ont pas beaucoup profité. Il y a des déséquilibres dont nous sommes responsables. Et si aujourd'hui, bien sûr, c'est difficile d'accueillir des gens qui viennent, qui bousculent notre propre équilibre intérieur, mais intérieur au pays, je veux dire. Mais ce n'est pas forcément si impossible que nous le disons quelquefois. Voilà, le pape nous encourage à prendre cette question à bras le corps de manière généreuse. Et je crois que là, si nous le faisons, enfin, il y a une clé de conversion pour notre humanité, voilà, le rapport à l'être humain. Je disais que voilà, nous sommes capables de décider ou non que des personnes ont droit de vie ou de mort, de survie, d'accueil. Voilà. Et quand on a des gens chez nous qui sont venus là au péril de leur vie, souvent c'était une aventure assez, assez difficile. C'est parce qu'ils étaient, ça n'allait pas là où ils étaient. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes capables d'être frères, de les considérer comme des frères, ou est-ce que nous les méprisons et nous considérons qu'ils n'ont qu'à se débrouiller et sans ressources, sans moyens? Parce que notre société n'est pas facile aujourd'hui. Il ne suffit pas d'être sur une terre pour pouvoir vivre. Il faut entrer dans un système, dans notre société, dans un système social, dans un système économique. Sinon, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi se vêtir, on n'a pas de quoi, l'hiver quand il fait froid, être un peu au chaud. Voilà, donc il y a une question dans le système de notre société, nous ne pouvons pas ne rien faire.
Ça rejoint également le principe de destination universelle des biens.
Absolument, évidemment, oui.
Et
l'évangile. On a abordé dans d'autres émissions.
Non, oui. C'est quelque chose qui s'impose, quoi, l'accueil de l'étranger. Je voulais qu'on évoque la question des ventes d'armes. Le pape s'est positionné très clairement aussi sur ce problème. Notre pays, si je prends la France, vend des armes à l'étranger régulièrement. Comment les chrétiens, pratiquement, les catholiques, peuvent-ils porter une parole dans le débat public sur cette question? Et quelle parole?
Y a-t-il un débat public sur cette question? J'ai peur que ça, on n'entend pas beaucoup.
On n'entend pas beaucoup de débats, mais il y a des débats privés.
Il y a peut-être des débats privés. Et je pense qu'effectivement, la position du pape nous bouscule parce que, encore une fois, les ventes d'armes conditionnent une bonne partie de l'économie de notre pays. Je ne connais pas les chiffres, je ne suis pas assez compétent là-dessus, mais je vois bien que ce n'est pas des petits chiffres. Et on ferait mieux de vendre effectivement des avions de ligne ou d'autres choses que nous sommes capables de produire.
Pas trop quand même pour l'écologie, les avions de ligne.
Oui, c'est vrai. Alors voilà, toute une question d'équilibre.
Tout est lié.
Mais voilà, c'est sûr que ça demande de repenser en tout cas notre économie, nos équilibres, demander quelles sont les priorités, quels sont les enjeux du voilà. On voit bien quand même que sur un certain nombre de domaines, on retrouve parfois des armes qui viennent de nos manufactures et qui ne servent pas toujours dans le sens de ce que nous voudrions pour la défense des pays. Bon, il faut être réaliste, il y a la nécessité d'une défense dans un pays. Pour, je disais tout à l'heure, la frontière, ça n'est pas que négatif, dans la mesure où elle permet des passages et de la communication, et pas la confusion générale. Des armes, il en faut dans la société humaine telle qu'elle est, du point de vue réaliste, mais dans quelle proportion proportions, comment pencher davantage peu à peu. On a parlé à un moment beaucoup de désarmement au plan nucléaire notamment. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on avance beaucoup dans ce domaine. C'est peut-être un peu le contraire. Et peut-être qu'il y a des enjeux de désarmement, mais ils ne peuvent se penser que globalement, pas simplement à l'échelle d'un seul pays, évidemment.
Voilà, je voulais qu'on termine en parlant des milieux carcéraux et hospitaliers. On sait que la France est régulièrement épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la situation catastrophique de nos prisons et l'indignité avec laquelle sont traitées les personnes incarcérées. On voit également que la dignité est compromise dans certains hôpitaux et dans certaines EHPAD. On l'a vu dans l'actualité récemment. Encore une fois, on constate que la dignité de l'homme passe au second plan.
Oui, le point de vue de l'Église, c'est toujours celui qu'on évoque depuis tout à l'heure sur l'appel à la conversion. C'est-à-dire que appeler les hommes à la conversion, c'est avoir confiance que quoi qu'ils aient fait, ils sont capables de mieux. Et le regard que nous portons, par exemple, sur les gens qui sont en prison, qui la plupart ont quand même été condamnés pour des fautes plus ou moins graves, mais enfin en général assez graves quand ils sont emprisonnés avec une condamnation ferme, ce sont certainement des gens qui ont commis des fautes.
Des actes graves,
des crimes. Bien voilà, ils ne perdent pas la dignité humaine.
Voilà, il ne faut pas qu'ils perdent leur dignité.
Ils ne perdent pas la dignité, ils sont humains. Voilà. Et on peut les appeler à la conversion. Le sens d'une aumônerie de prison, c'est d'accompagner. Alors conversion, il ne faut pas forcément dire que l'aumônerie de prison est là pour convertir tout le monde au Christ, parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des religions, etc. Alors s'ils veulent se convertir, on en est très heureux. Mais je veux dire, ce n'est pas dans un sens de prosélytisme, mais dans le sens déjà de changer de vie.
D'être attentif à ces personnes.
De changer de vie, se tourner vers Dieu librement, on peut les y encourager. Et retrouver une plus grande, retrouver une forme d'honneur. Hein, ils ont la dignité profonde de leur être en tant qu'être humain, elle n'est pas perdue. Ils peuvent retrouver une forme d'honneur en changeant de vie, en prenant une direction différente. Le rôle des aumôneries est de les accompagner dans cette direction-là, et évidemment vers le Christ, s'ils rencontrent Jésus-Christ et qu'ils découvrent de quel amour ils sont aimés par lui. Voilà, donc c'est le Secours catholique aide aussi à certains moments des détenus les plus en difficulté, parce que bon, certains ne sont pas forcément en difficulté matérielle parmi les détenus. Ils, à la sortie, ils peuvent retrouver, quelquefois ils n'ont pas tout perdu, mais bien souvent certains ont perdu beaucoup, non seulement au plan matériel mais aussi au plan relationnel, c'est-à-dire que tout leur réseau de relations peut, suite à ce qu'ils ont fait, être totalement dispersé et impossible à retrouver. Enfin, là, il y a toutes les situations. Voilà, l'Église, en tout cas, prend au sérieux l'accompagnement de ces personnes dans la confiance de ce qu'elles sont capables de mieux que ce qu'elles ont fait jusqu'ici. Voilà, en sachant que, quelquefois, pour des raisons psychologiques, le mieux n'est pas toujours facile à réaliser. Simplement, il ne suffit pas d'exhorter et d'encourager, mais voilà, en gardant ce réalisme, on garde aussi cette confiance en même temps.
Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces interventions. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Chers amis auditeurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci à nos techniciens et merci de votre écoute.